Les faits, les voici. Quelques jours plus tard, Wanzer avait pris possession de mon appartement. S'était logé chez moi. S'était installé comme pensionnaire. Et moi, par conséquent, je continuais à être esclave et à trembler. Est-il besoin dès lors de vous exposer la suite des faits? Est-il besoin de vous les expliquer? Vous paraît-il qu'il y a là quelque chose d'étrange? Dois-je aussi vous raconter les souffrances de Chiro, ses colères muettes et rentrées, ses mots amers auxquels j'aurais préféré n'importe quel poison, ses cris et ses sanglots qui éclataient inopinément dans la nuit et me faisaient dresser les cheveux et les effrayantes immobilités cadavériques que son corps avait dans le lit? Et ces larmes des larmes qui parfois se mettaient à couler sans cause, une à une, Dieu qui restait ouverts et purs, qui ne s'enflammaient pas, qui ne rougissaient pas. Ah, monsieur, il faut avoir vu cet enfant pleurer pour savoir comment l'âme pleure. Nous avons mérité le ciel, ô Jésus, Jésus. N'avons-nous pas mérité ton ciel? Merci, monsieur, merci. Je puis continuer. Laissez-moi continuer tout de suite, autrement je n'arriverai jamais à vous dire la fin. Nous en approchons, vous savez. Nous en approchons, nous y sommes. Quel jour est-ce aujourd'hui? Ah, le 26 juillet, eh bien, ce fut le 9 juillet, le 9 de ce mois. Oh, on dirait qu'il y a un siècle, on dirait que ce fut hier. Je me trouvais dans l'arrière-boutique d'une droguerie, courbé à mon pupitre sur un travail de comptabilité, épuisé de lassitude et de chaleur, dévoré par les mouches, écœuré par l'odeur des drogues. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi. Souvent, j'interrompais mon travail pour penser à Chiro, qui depuis quelques jours allait plus mal qu'à l'ordinaire. Je contemplais en mon cœur sa figure amaigrie par la souffrance, allongée, pâle comme un cierge. Notez, monsieur, une circonstance. D'un vasistas percé dans la muraille à laquelle je tournais le dos, par conséquent au-dessus de ma tête, il tombait cette raie de soleil. Notez encore, monsieur, ces autres circonstances. Un garçon, un jeune homme, corpulent, dormait couché sur des sacs, inertes, et des milliers de mouches bourdonnaient sur lui comme sur une charogne. Le patron, le droguiste, entra et se dirigea vers un angle où était une cuvette. Il saignait du nez et, comme il marchait en se penchant pour ne pas tâcher sa chemise, le sang dégouttait par terre. Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence si profond que la vie semblait suspendue. Aucun client n'entrait, aucune voiture ne passait. Le garçon ne ronflait plus. Tout à coup, j'entendis la voix de Chiro. « Où est papa ?» Et je le vis apparaître. Dans cette salle basse, parmi ses sacs, ses barils, ses tas de savon, lui si fin, presque diaphane, avec l'apparence d'un esprit. Je le vis apparaître devant moi comme en une hallucination. Son front ruisselait de sueur, ses lèvres tremblaient, mais il me semblait animé d'une énergie sauvage. « Toi, ici, à 7 heures ? » m'écriai-je. « Mais qu'est-il arrivé ? » ?»« Viens, papa, viens. »« Mais qu'est-il arrivé ? » ?»« Viens, viens avec moi. » Il avait la voix sourde, mais résolue. Je quittais tout en disant « Je reviens à la minute !» Et je sortis avec lui, bouleversé, vacillant sur mes jambes fléchissantes. Nous étions dans la rue du Triton. Nous prîmes par en haut vers la place Barberini, un vrai lac de feu chauffé à blanc, déserte. Était-elle déserte? Je ne sais pas, mais je ne vis que le feu. Chiro me saisit la main. « Eh bien, tu ne parles pas. Mais qu'est-il arrivé ?» lui demandai-je pour la 3e fois, malgré la peur que j'avais de ce qu'il allait dire. Viens, viens avec moi. Wanzer l'a battu, il l'a battu. » La fureur lui étranglait la voix dans la gorge. Il paraissait être incapable d'en dire davantage. Il hâtait le pas, m'entraînait. « Je l'ai vu de mes yeux, » reprit-il. De ma chambre, j'ai entendu qu'il criait, j'ai entendu les paroles. Wanzer la couvrait d'injures, l'appelait de tous les noms. Oh, de tous les noms, tu comprends? Et je l'ai vu quand il s'est jeté sur elle, les poings levés, en hurlant « Attrape, attrape, attrape !» Et sur la figure, sur la poitrine, sur les épaules, partout, et « Oh, si fort, si fort, attrape, attrape !» Et il appelait de tous les noms « Oh, tu sais bien lesquels !» Méconnaissable, cette voix. Oh, oui, aigre, sifflante, coupée par des suffocations de haine si furieuses que je pensais avec terreur « Mais il va tomber, mais de rage, il va s'abattre sur le pavé !» Il ne tomba pas, il continua de précipiter sa marche, de m'entraîner sous ce ciel cruel. Crois-tu que je me sois caché? Crois-tu que je sois resté dans mon coin? Crois-tu que j'ai eu peur? Non, non, j'ai pas eu peur. J'ai avancé sur lui, moi, je me suis mis à crier contre lui, je l'ai empoigné par les jambes, j'ai mordu à la main, j'ai pas eu la force de faire autre chose. Il m'a renversé par terre. Puis il s'est de nouveau jeté sur maman. Il l'a prise par les cheveux. Oh, le lâche, le lâche. La suffocation l'interrompit. Le lâche, il l'a prise par les cheveux. Il l'a traînée vers la fenêtre. Il voulait l'acheter en bas. Enfin, il l'a lâchée. Je me sauve sans quoi je te tuerai. Ce sont ses propres paroles. Et il s'est sauvé. Il s'est évadé de la maison. Oh, j'avais eu un couteau. La suffocation l'interrompit encore. Nous étions dans la rue San Basilio, déserte. Par crainte de le voir tomber, de tomber moi-même, je suppliais. Arrête, arrête-toi une minute, Chiero. Arrêtons-nous une minute ici, à l'ombre, n'en peux plus.
Non, non, il faut faire vite, il faut arriver à temps. Si Wanzer revenait à la maison pour la tuer... Elle avait peur, maman, elle avait peur de le voir revenir et d'être tuée. J'ai entendu qu'elle disait à Marie de prendre la valise et d'y mettre ses affaires pour quitter Rome tout de suite, pour aller, je crois, à Tivoli, chez Tante Amalia. Il faut arriver à temps. La laisseras-tu partir, toi ?
Il s'arrêta, mais seulement pour me regarder bien en face et pour attendre ma réponse. Je balbutiais, non, non, non.
Et lui, le laisseras-tu rentrer à la maison? Ne lui diras-tu rien? Ne lui feras-tu rien?
Je ne répondis pas. Et lui ne s'aperçut pas que j'étais sur le point de mourir de honte et de douleur. Il ne s'en aperçut pas, puisque, après un intervalle de silence, il me cria à l'improviste, d'une voix qui n'était plus celle de tout à l'heure, d'une voix qui rendait tremblante une émotion profonde.
« Papa! Papa, tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de lui, n'est-ce pas ?»
Je balbutiais, « Non, non !» Et nous reprîmes notre marche sous le grand soleil, à travers les terrains dévastés de la villa Ludovici, parmi des arbres abattus, les monceaux de briques, les fosses à chaud qui m'éblouissaient et m'attiraient. Plutôt mourir brûlé vif dans une de ces fosses, pensais-je, que d'affronter l'événement inconnu. Mais Chiro m'avait repris par la main et m'entraînait aveuglément vers la destinée. Nous arrivâmes, nous montâmes.
« Tu as la clé ?»
demanda Chiro. Je l'avais, j'ouvris la porte. Chiro entra le premier, il appela
« Maman, maman !»
Point de réponse. Marie ! Point de réponse. La maison était vide, pleine de lumière et d'un silence suspect.
Déjà parti, dit Chiro. Que vas-tu faire ?
Il entra dans la salle, il dit.
Voici l'endroit.
Il y avait encore une chaise renversée. J'aperçus sur le parquet une épingle tordue et un nœud rouge. Tiro, dont les regards suivaient mes regards, se baissa, ramassa quelques cheveux très longs, me les tendit. « Vois-tu ?» Ses doigts et ses lèvres frémissaient. Mais son énergie était tombée, ses forces défaillaient. Je le vis chanceler, je le vis s'évanouir dans mes bras, je l'appelais « Chiro, Chiro, mon cher fils !» Il était inerte. Je ne sais comment je fis pour vaincre la faiblesse qui allait me prendre à mon tour. Une pensée me frappa. Si en ce moment Fanzer entrait, je ne sais comment je fis pour soutenir la pauvre créature, pour la porter jusqu'au lit. Il reprit connaissance et je lui dis « Il faut te reposer. Veux-tu que je te déshabille? Tu as la fièvre. Je ferai venir le médecin. Veux-tu que je te déshabille tout doucement? Veux-tu ?» Ces mots, je les prononçais. Ces actes, je les accomplissais comme s'il ne devait rien arriver de plus. Comme si les banalités de la vie quotidienne, comme si les soins que je donnais à mon enfant devaient pour ce jour-là être ma seule affaire. Mais je sentais, je savais, mais j'étais sûr que les choses iraient autrement, qu'elles ne pourraient pas ne pas aller autrement. Mais une pensée unique me martelait le cerveau. Mais une attente unique, une attente angoissée, me tordait vraiment les entrailles. L'horreur, lentement accumulée au fond de mon être, se propageait maintenant dans toute ma substance, faisait vivre mes cheveux depuis la racine jusqu'à la pointe. Je répétais, « Laisse que je te déshabille et que je te mette au lit. » Il répliqua, « Non, non, je veux rester vêtu. » Ni la nouveauté de son accent, ni la singularité de ses paroles, qui pourtant étaient graves, n'interrompirent en moi l'incessante répétition de cette question simple et terrible. Que vas-tu faire? Mais que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Pour moi, toute action était inconcevable. Il m'était impossible d'arrêter un projet, d'imaginer une solution, de préméditer une attaque ou une défense. Le temps passait, rien n'arrivait. J'aurais dû aller chercher le médecin pour Chiro, mais Chiro aurait-il consenti à me laisser sortir? À supposer qu'il eût consenti, il serait demeuré seul. Et puis j'aurais pu rencontrer Vanzer dans l'escalier, et alors? Bien, Vanzer aurait pu rentrer en mon absence. Et alors, sur les prescriptions de Chiro, je ne devais pas permettre à Vanzer de rentrer. Je devais lui dire, je devais lui faire quelque chose. Eh bien, j'avais la ressource de fermer la porte en dedans avec le verrou, et Vanzer n'aurait pas pu ouvrir avec la clé. Mais il aurait tiré la sonnette, il aurait frappé. Il aurait fait un furieux tapage, et alors nous attendîmes. Chiro était couché sur son lit. Moi, j'étais assis à côté de lui, et je tenais une de ses mains en lui tâtant le pouls. Les pulsations s'accéléraient avec une rapidité vertigineuse. Nous ne parlions pas. Nous croyions entendre mille bruits, et nous n'entendions que le bruit de nos artères. Dans le vide de la fenêtre, il y avait un fond d'azur. Les hirondelles volaient en rasant, comme pour entrer. On aurait dit qu'une respiration gonflait les rideaux. Sur le carrelage, le soleil dessinait exactement le rectangle de la fenêtre, et les ombres des hirondelles s'y jouaient. Mais pour moi, toutes ces choses n'avaient plus de réalité, semblaient n'être autre que des apparences. Ce n'était plus la vie, c'était le simulacre de la vie. Mon angoisse même était devenue fantastique. Combien s'écoula-t-il de temps? Chiro dit, « Je suis soif, donne-moi un peu d'eau. » Je me levai pour lui donner à boire. Mais sur la table, la carafe était vide. Je la pris et je dis, « Je vais la remplir à la cuisine. » Je sortis de la chambre, j'allai à la cuisine, je mis la carafe sous le robinet. La cuisine était contiguë à l'antichambre. Mon oreille perçut distinctement le bruit d'une clé qui tournait dans la serrure. Je restais pétrifié dans l'impossibilité absolue de me mouvoir. Ensuite, j'entendis qu'on ouvrait la porte et je reconnus le pas de Wanzer. Wanzer appela « Ginevra !» Silence. Il fit quelques pas en avant et il appela encore « Ginevra !» Silence. Nouveau pas. Évidemment, il la cherchait dans les chambres. Impossibilité absolue de me mouvoir. Soudain, j'entendis un cri de mon fils, un cri sauvage qui dénoua instantanément mes membres rigides. Mes yeux coururent à un long couteau qui luisait sur le buffet et aussitôt ma main le saisit. Et une force prodigieuse m'envahit le bras. Je me sentis transporté comme par un tourbillon sur le seuil de la chambre de mon fils. Et je vis mon fils cramponné avec une furie féline au grand corps de Wanzer. Et je vis sur mon fils les mains de Wanzer. 2, 3, 4 fois, je lui plongeai le couteau dans l'échine jusqu'aux manches. « Ah, monsieur, par charité, ne me quittez pas, ne me laissez pas seul. » Avant ce soir, je mourrai. Je vous promets de mourir. Alors vous vous en irez, vous me fermerez les yeux et vous vous en irez. Mais non, je ne vous demande même pas cela. C'est moi, moi-même, qui, avant d'expirer, fermerai mes yeux. Voyez ma main. Elle a touché les paupières de cet homme et elle en a jauni. Ses paupières, je voulais les baisser parce que Chiro se dressait à tout instant sur sa couche et criait « Papa, papa, il me regarde !» Mais comment pouvait-il le regarder puisqu'il était recouvert? C'est donc que les morts regardent à travers les draps. Et la paupière gauche résistait, froide, froide. Que de sang! Est-il possible qu'un homme contienne une mer de sang? C'est à peine si les veines se voient. Elles sont si fines qu'on les distingue à peine. Et pourtant, je ne savais où mettre le pied. Mes chaussures se trempaient comme deux éponges. Est-ce bizarre, et comme deux éponges? L'un tant de sang et l'autre pas une goutte, un lys. Oh, mon Dieu, Alice! Il y avait donc encore des choses blanches au monde. Des lys, que de lys! Mais voyez, voyez, monsieur, qu'est-ce qui me prend? Quel est ce bien que j'éprouve? Avant ce soir, oh, avant ce soir! Une hirondelle entra. Laissez, laissez entrer l'hirondelle!